J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Patrick de Quépert, qui va. Le titre est relativement différent. Enfin, c'est bien Patrick de Quépert, c'est bien sur le sujet que nous lui avons demandé de traiter. Mais son titre, ça s'appelle Morphogénèse chimique, les réactions créatrices de rythme et de forme. Voilà le titre exact. Patrick de Quépert est né en 1945. Il est docteur de troisième cycle et docteur en sciences physiques. Il a une carrière de chercheur. Il a été d'abord ingénieur au CNRS, attaché de recherche, chargé de recherche. Et il est actuellement directeur de recherche au CNRS, au centre Paul Pascal à Bordeaux. Il est l'auteur, il a reçu des prix de l'Académie des sciences, prix de chimie Paul Pascal, justement, en l'an 2000. Et il est l'auteur de très nombreuses publications scientifiques spécialisées. Voilà, je vous passe la parole. Merci.
Bon, je voudrais d'abord remercier le professeur Yves Michaud pour l'invitation. Je suis bien sûr très heureux d'être ici, bien que cela ait écourté un petit peu mes vacances. Mais voilà. Bon, alors je vais... Attendez, j'essaie de faire fonctionner ce machin d'abord. Lampe. C'est là. Voilà. C'est là. Avec un peu... Voilà. Donc, j'ai traité un aspect de la chimie qui est souvent ignoré ou méconnu. Il s'agit de montrer comment une réaction chimique peut générer... Un phénomène assez particulier, elle peut rythmer, elle peut générer des périodes, elle peut également structurer l'espace. Bon, ce travail, bon, on a dit, c'est essentiellement celui que j'ai effectué avec mes collègues au Centre de recherche Paul Pascal. Voilà le genre, j'y ai marqué un plan, mais en fait ce sont plutôt les notions que je vais essayer de faire passer. Je ne présenterai pratiquement pas de schéma réactionnel, ni même de réaction chimique à proprement parler. Ce que je veux essayer de faire passer ici, c'est simplement les ingrédients de base qui vont donner naissance, justement. L'arsène. De base qui vont donner naissance, justement, à ces phénomènes de périodicité et de structuration de l'espace. Alors, justement, alors je vais d'abord introduire, bon, après un bref rappel de ce qu'est une réaction chimique, introduire qu'est-ce qu'une réaction chimique oscillante, la notion de phénomène non linéaire, système ouvert, système fermé, c'est-à-dire qui échange ou non de la matière avec son milieu environnant, et puis comment l'interaction entre la réaction chimique et la diffusion des espèces peut structurer l'espace. Puis on verra quelques aspects des analogies biologiques et si on a le temps, ce que l'on peut en penser. Alors, quelque chose pour commencer vraiment le béaba. Je rappelle qu'une réaction chimique est essentiellement l'interaction des noms de réactifs. Ici, j'ai mis un réactif A et un réactif B qui donnent des produits et de l'énergie. Alors, l'énergie peut être soit consommée ou produite au cours de cette transformation. Par exemple, ici, l'oxygène plus un dioxygène et deux dihydrogènes vont donner deux molécules d'eau. Alors, ce petit bilan ici donne seulement, dans un premier temps, le rapport quantitatif des espèces mises en jeu et leur combinaison, mais également, il indique, par exemple, que si je prends le nombre d'Avogadro de molécules d'oxygène et deux fois celui de nombre d'Avogadro d'hydrogène, c'est-à-dire je prends 32 grammes d'oxygène, 4 grammes d'hydrogène, je vais obtenir 38 grammes d'eau et je vais produire suffisamment de chaleur pour faire passer 1,2 litre d'eau de 0 à 100 degrés. Donc, la réaction chimique transforme et produit également de l'énergie. Maintenant, ici, ce que vous voyez, cette petite flèche, ça indique également qu'il y a seulement une direction dans laquelle ceci se produit, mais ça se produit également avec une certaine cinétique. Et ce petit schéma qui est extrêmement simplifié cache en fait quelque chose de très compliqué au niveau des mécanismes. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que la réaction chimique transforme les espèces en d'autres. Donc, c'est ce qui donne naissance à la synthèse. Dans la vie quotidienne, dirons-nous, les objets de la synthèse nous environnent constamment. C'est-à-dire vos fauteuils, le polyéthylène, polyvinylalcool, chlore de vinyle. On en produit, je disais, plusieurs centaines de millions de tonnes par an dans le monde. Alors, par exemple, les engrais, l'engrais le plus courant, je cite ici le nitrate d'ammonium, les médicaments. Autre usage de la chimie, c'est l'énergie. Alors, c'est l'aspect ici, production de chaleur. On s'en sert évidemment à travers la combustion du charbon, du gaz, du fioul, c'est pour nos chaudières, le chauffage, également pour le faire fonctionner nos voitures, les fusées. Là, on se sert de la chaleur pour qu'il y ait une expansion du gaz et qui fait bouger le piston ou propulse la fusée. Ça, c'est vraiment ce que tout le monde connaît de la chimie. Par contre, voilà ce que la chimie peut aussi produire. Ici, on aborde les aspects qui sont liés aux aspects cinétiques de la chimie, aux transformations. Par exemple, une réaction chimique peut donner des variations périodiques de concentration qui ici sont mises en évidence à travers une électrode à l'intérieur de la solution par des variations de potentiel. Ici, on voit, par exemple, les variations de potentiel sont de l'ordre de 160 millivolts. 160 millivolts, ça représente, pour une variation de concentration d'une espèce, un facteur 1000 de variation entre la partie la plus basse et la plus haute de la concentration. On peut obtenir des variations de concentration dans des réactions oscillantes d'un facteur de plus d'un million. C'est-à-dire qu'il y a, entre le minimum et le maximum, une variation d'un million de fois la concentration la plus faible. Donc c'est quelque chose qui peut être considérable. Lorsque maintenant on laisse la réaction se combiner avec la diffusion, le transport, on va obtenir aussi, à partir de solutions qui sont initialement homogènes, des structures soit sous forme d'ondes, soit sous forme ici de motifs stationnaires. Alors je attire tout de suite l'attention. Ici, je ne traiterai de cas que de réactions en solution. Il n'y a jamais de précipité, il n'y a pas de démixion. Toutes les espèces sont solubles à tout instant dans tout ce que je vais raconter. Alors passons à quelque chose de plus concret, puisque là, maintenant, pour montrer cela, il ne faut pas que je touche ceci. Passons tout de suite à une petite démonstration de réaction chimique oscillante. Et vous montrer que cela peut se produire avec des réactifs relativement simples. Je vais faire un mélange ici de ce que l'on appelle de la réaction de Briggs et Rauscher. Monsieur Briggs et Rauscher étaient des professeurs de lycée aux États-Unis et ils avaient concocté, à partir évidemment de recettes d'autres, ce petit mélange où je mets de l'eau oxygénée, de l'acide malonique, rien de très compliqué jusqu'à présent. Voilà. Je mélange un peu. Voilà. Et de l'iodate. Alors, si tout se passe bien, comme il y a de l'iodate, c'est une réaction qui produit de l'iode. J'ai mis là-dedans un indicateur de l'iode qui est l'amidon. Et à chaque fois que ça passe au bleu, il y a la concentration d'iodure et d'iode qui sont élevées. Ensuite, ça passe au clair, il n'y a plus d'iode ni d'iodure à l'intérieur du système. Ça repasse au jaune, l'iode augmente. Puis brutalement, l'iodure augmente à nouveau. Voilà, ça c'est une réaction oscillante. Il n'y a pas de précipité, c'est toujours en solution. Bon, ça va se produire, ça va se continuer encore pendant un certain temps. Bon. Pendant que cela se passe, voyons voir quels sont les ingrédients nécessaires à ce type de phénomène. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Bon. Je sais que c'est amusant. quels sont les ingrédients? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, nous avons affaire à des réactions, pour obtenir ce genre de choses, qu'il y a des phénomènes de auto-activation. Alors, les notions d'auto-activation ou de rétroaction positive, ce sont des phénomènes qui tendent, par exemple, à prolonger ou à accélérer le changement qui se produit au cours de la réaction. Un des cas les plus simples, c'est ce qu'on appelle l'autocatalyse. Par exemple, j'ai un réactif A qui va donner une espèce X. Mais cette espèce X active sa propre formation. Autrement dit, plus je vais avoir de X, plus vite la réaction va se faire. Parce qu'on a des termes, la vitesse de réaction est proportionnelle à A et proportionnelle à X. Si par un artifice on gardait A constant, ça serait un système explosif. C'est-à-dire que ça augmenterait indéfiniment, c'est un effet boule de neige ou d'avalanche. Un autre qui est un petit peu plus subtil ici, c'est ce qu'on appelle une inhibition par substrat. Là, c'est le réactif qui freine au départ sa propre consommation. Mais comme il est tout de même un peu consommé au cours du temps, au fur et à mesure qu'il diminue, il freine de moins en moins. S'il freine de moins en moins, il est consommé de plus en plus vite. Ici, ça, au lieu d'être une explosion, ça serait le cas d'une implosion, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une cinétique qui représente déjà quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On ne peut évidemment pas aller jusqu'à ce que Y, ici, la concentration A est zéro, parce que la vitesse est infinie, ça, ce n'est pas permis. Et de toute façon, s'il n'y avait plus d'Y, il n'y a pas de réaction, donc cette loi n'est valable que dans un domaine de concentration. Mais c'est pour vous donner le genre de phénomène qu'il faut mettre en œuvre. Alors, s'il n'y avait que ces processus d'activation, il n'y aurait pas d'oscillation. Il faut qu'il y ait des processus modérateurs, qui en quelque sorte des processus antagonistes, qui viennent contrebalancer cette activation. Et différents cas, on peut dire, de processus antagonistes, simplement la réaction inverse. Par exemple, ici, A plus X donne P, mais P se décompose pour donner A plus X. Donc ceci va limiter, en quelque sorte, cette expansion. On aurait pu mettre ici, par exemple, une petite flèche inverse. D'ailleurs, en chimie, il y a toujours des flèches dans les deux sens. Il y a toujours plus importante dans un que dans l'autre. Une autre, par exemple, ici, qui est très claire, c'est qui va, en quelque sorte, modérer cette expansion, c'est que l'espèce, par exemple, A, va être consommée. Comme A est consommé, A diminue, bien que X augmente, si A diminue, on voit bien que si A diminue suffisamment et que s'il disparaît, la vitesse est nulle tout de même. Donc voilà, il faut toujours une balance entre les deux phénomènes. Et autre chose, et on peut comprendre, si le processus modérateur se développe à la même vitesse que le processus activateur, il va tout de suite le ramener. Il ne va pas pouvoir se développer, le processus activateur. Un autre ingrédient, il faut qu'il y ait une différence dans les échelles de temps, on dira, dans l'action de l'un et l'autre processus. Il faut que le processus activateur agisse sur un temps court et que le processus inhibiteur agisse sur un temps long. Mais au bout de ce temps, il va rattraper et il va arrêter le processus activateur. Donc il y a trois ingrédients. Il faut un activateur, il faut un inhibiteur, et il faut un découplage des échelles de temps. Alors, je ne sais pas où est-ce que l'on est ici. Cette réaction ici que j'ai faite dans ce qu'on appelle un système fermé. Un système fermé, c'est-à-dire que j'ai versé les réactifs en une seule fois et j'ai laissé la réaction évoluer naturellement. Dans ce cas, ça continue parce que ça dure longtemps, elle se plaît bien dans cet amphi. Dans ce cas, les réactions, de toute façon, toute réaction au système fermé évolue vers leur état d'équilibre. Et on peut démontrer qu'il ne peut pas y avoir de comportement d'oscillant au voisinage de l'état d'équilibre. Parce que, justement, je vous disais que les réactions chimiques peuvent aller dans un ou l'autre sens, et lorsqu'on est à l'équilibre, c'est justement lorsque la vitesse de réaction dans les deux sens de transformation s'équilibre. Et dans ce cas-là, les processus non linéaires, les processus linéaires deviennent dominants par rapport aux processus non linéaires. Alors j'ai oublié de vous dire, les processus non linéaires, c'est ceux où les effets ne sont pas proportionnels aux causes, si on peut l'exprimer de façon simplement. Par contre, les processus linéaires, c'est au contraire où les effets sont proportionnels aux causes. Or, au voisinage de l'équilibre, ce sont les processus linéaires qui sont dominants, c'est-à-dire que les effets sont proportionnels aux causes et il ne peut pas y avoir d'oscillation. Comme en système fermé, le système évolue inexorablement vers l'état d'équilibre, ces oscillations vont s'arrêter lorsqu'on aura consommé une bonne partie des réactifs et que les produits se seront accumulés. Donc, comme je vous ai mis ce petit schéma ici, on a d'abord quelques oscillations et puis elles disparaissent et finalement, le système évolue vers son état d'équilibre final. On ne peut donc avoir un système oscillant que si d'abord le système est loin de l'équilibre initialement et tant qu'il est suffisamment loin de l'équilibre, ou alors on peut le maintenir loin de l'équilibre en approvisionnant constamment un système en réactif. Par exemple, je pourrais avoir injecté ici des tuyaux qui font que je vais injecter constamment les trois réactifs que je viens de mélanger là, je garde ceci à volume constant, je continue à agiter, et tant que j'alimente, les oscillations vont continuer indéfiniment. Elles vont même se stabiliser avec une période bien définie. Alors qu'ici, si vous avez suivi, ça ralentit, et puis en plus, il y a des choses un petit peu bizarres, mais je reviendrai là-dessus. Et je peux les uniformiser, vous allez voir, hop, un peu d'oxygène dans la salle. Il y a de l'oxygéné, donc il y a un fort dégagement d'oxygène. Alors, les réactions chimiques oscillantes. Je vais passer très rapidement, faire un bref historique de ces réactions. La première réaction chimique oscillante homogène reconnue a été découverte par William Bray, également un Américain. Il s'agit d'une réaction entre l'iodate de potassium et l'eau oxygénée en milieu acide sulfurique. William Bray étudiait en quelque sorte la décomposition de l'eau oxygénée par le couple iodate-iode. Comme quand on est un précurseur, on est souvent contesté. Cette réaction a suscité un tollé de la part de ses collègues chimistes en leur disant « c'est pas possible, vous avez fait l'expérience de travers, vous n'avez pas bien regardé, vous avez avoir un tas de poussière là-dedans, ou votre oxygéné est pollué, vous savez bien que les oscillateurs ne peuvent pas exister en système homogène ». Tout ceci parce qu'en fait, les réactions oscillantes étaient connues au 19e siècle, mais toutes celles qui étaient connues mettaient justement en cause soit une interface, soit des particules, soit des problèmes de sursaturation, de dégagement gazeux. Alors ils disaient, celui-là, ils disaient, vous avez de l'oxygène, vous avez de l'iode, c'est sûr, c'est pour ça que ça fonctionne, sinon, bien que Bray s'était mis dans des conditions où il n'y avait absolument aucun dégagement gazeux et aucun précipité. Ce n'est qu'à travers les études théoriques qui ont été essentiellement développées par l'école thermodynamique de Bruxelles, sur la thermodynamique de non-équilibre, justement, qui a montré que, finalement, une réaction homogène pouvait soutenir des oscillations à condition, comme je vous dis, qu'elle évolue loin de l'équilibre. Donc, les fondements thermodynamiques, il n'y avait pas de contradiction avec la thermodynamique. Les réactions chimiques peuvent osciller pourvu qu'elles évoluent loin de l'équilibre. L'autre réaction chimique qui est également une des plus populaires, c'est la réaction dite de Belousov-Japodinsky. Alors Belousov, c'était un militaire soviétique qui étudiait, lui, le cycle de Krebs. Et en étudiant le cycle de Krebs, il utilisait des oxydants doux comme le bromate avec un catalyseur. Et l'acide citrique, en fait, j'ai mis malonique, mais en fait, ça c'est l'acide citrique. Et il a eu la surprise de voir que cette réaction d'oxydoréduction, le cérium passait du cérium 4 à cérium 3, il était de jaune pâle, jaune foncé, jaune pâle, jaune foncé. Là aussi, on lui a rappelé qu'il n'était pas là pour étudier des phénomènes aussi curieux et que probablement il avait fait une erreur, que ce n'était pas la peine d'en parler et qu'il retourne à son travail initial. Et il n'a pu en fait publier que plus de 7 ans plus tard, dans d'ailleurs un journal obscur, vraiment, c'est genre note au compte-rendu de Novosibirsk ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment là. Donc, mais par contre, il y a un jeune étudiant qui, dans les années 60, lui a pris connaissance de cette réaction et il était en fait dans un groupe de gens qui faisaient de l'électrophysiologie, qui eux s'intéressaient aux problèmes d'oscillation. Parce que, évidemment, dans les milieux biologiques, il y a pas mal de phénomènes oscillants. Il a repris ses études et il y a pu, justement, lui, c'est lui qui a introduit l'acide malonique, qui est un ingrédient un peu plus facile à manipuler que l'acide citrique, et ça fonctionne également beaucoup mieux, a remplacé un certain nombre d'ingrédients. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de cette réaction sur une vidéo. Jusqu'aux années 80, il y a très peu de réactions oscillantes qui existent, et elles sont surtout découvertes par hasard. Elles sont faites par hasard, puis ensuite, une fois qu'on en connaît une, on fait des petites modifications, par exemple, de l'acide citrique, on met de l'acide malonique, ou on met autre chose, on met un dérivé du phénol. Toujours des petites modifications, ce sont j'appellerais ça des variantes. C'est pareil pour la réaction de Bray. La réaction de Brix et Rauscher, que je vous ai montré ici, en fait, c'est une espèce de hybride entre la réaction de Bray et la réaction de Belousov-Japonsky. Ne demandez-moi pas comment ils sont arrivés à cette recette-là, parce que mais c'est une des plus spectaculaires pour montrer comme ça dans un grand amphi. Ce n'est qu'après qu'on ait, nous, utilisé très souvent des réacteurs ouverts, que l'on a pu mettre en œuvre, en quelque sorte, des procédures systématiques pour pouvoir découvrir de nouvelles réactions oscillantes. Et j'ai fait ce travail avec des collègues au laboratoire au Centre de recherche Paul Pascal et également à l'université de Brandeis aux États-Unis, sans compter quelques collègues hongrois qui étaient là également à cette époque-là. On s'aperçoit maintenant qu'il y a, on connaît plus d'une trentaine de familles. Elles sont réparties essentiellement sur la chimie des halogènes, alors iode, brome, on vient d'en parler, également maintenant le chlore, du manganèse par exemple, une réaction pourtant qui était connue, permanganate ion manganeux en réacteur ouvert peut donner des oscillations. De même, la réaction qu'on utilise souvent par des dosages, permanganate acide oxalique, peut donner des oscillations en réacteur ouvert. Le soufre également, c'est à titre d'exemple. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en réacteur fermé, la plupart du temps, les réactions évoluent vers leur état d'équilibre en un temps plus court qu'une période d'oscillation. Donc, on ne verra pas d'oscillation. Par contre, si on les met en réacteur ouvert, à ce moment-là, on peut les maintenir dans des conditions de non-équilibre suffisamment longtemps pour qu'apparaisse le phénomène oscillant. Alors, je parlais de réactions chimiques oscillantes en chimie, mais en fait, un des grands intérêts qui est sur ces réactions chimiques oscillantes, c'est que dans les systèmes biologiques, il y a de nombreux comportements oscillants à tous les niveaux. Là, j'ai pris quelques exemples extraits d'un atlas qui, maintenant, il y a plus de 30 ans en arrière, il y a une liste de plus de 100 oscillateurs biologiques. Je suis à peu près sûr que maintenant, on pourrait peut-être doubler ou tripler ce nombre sans problème. Alors, les plus étudiés et les plus intéressantes, à mon point de vue, si on veut les comparer au système chimique classique, c'est la glycolyse, parce qu'on peut, en quelque sorte, ce sont des extraits réellement, ce sont des réactifs, des extraits en solution qui oscillent. La peroxydase du Rerfort également est une réaction oscillante. Alors, d'autres phénomènes oscillants où on fait maintenant intervenir non pas quelque chose qui est en solution à proprement parler, mais où on fait intervenir une membrane. Alors, c'est classique, par exemple, c'est les cellules du noyau nodal du cœur, ce qui donne en fait les impulsions au cœur. C'est un phénomène oscillant. Il existe des neurones oscillants, il existe des amibes qui ont des comportements oscillants. Dictyostelium discoideum. Également, il y a des, alors qu'à quoi servent ces mouvements, ces pulsations, par exemple, à travers des populations d'amibes, elles servent par exemple à s'agréger. Elles signalent leur position et de proche en proche, elles finissent par se rassembler pour faire une petite larve. Voilà, très brièvement, passer les aspects. Bon. Maintenant, si je combine, maintenant au lieu d'agiter, si je combine la réaction avec la diffusion. Alors, la diffusion, je rappelle ce que c'est. La diffusion, c'est un phénomène qui naît dans le mouvement aléatoire des molécules au sein d'un liquide. Si je prends une molécule, par exemple, dans ce flacon-là, au cours du temps, ces mouvements aléatoires vont faire qu'elle va explorer entièrement tout le volume de ce flacon. Maintenant, si je prends une collection de molécules, par exemple, de même nature, elles vont chacune explorer indépendamment, évidemment, tout le flacon, ce qui veut dire qu'ils vont se disperser. Et c'est ce phénomène de dispersion qu'on appelle la diffusion. Donc, autrement dit, la diffusion est généralement un processus qui est homogénéisant, dispersant. Mais en même temps, on voit qu'il transmet de l'information. Ici, comme j'ai écrit, la diffusion, en quelque sorte, signale dans l'ensemble de ce bécher qu'il y a des colorants rouges, puisque le colorant rouge est dispersé graduellement en l'ensemble du flacon. Si maintenant les réactions, on prend une réaction aussi lente et on n'agite pas, comme ça s'était d'ailleurs produit tout à l'heure, comme je n'agitais plus, il peut y avoir localement des déphasages, c'est-à-dire que l'oscillateur en chaque point peut continuer à avoir la même période, mais ils ne sont pas exactement au même temps. Autrement dit, vous avez l'impression de voir des espèces d'ondes qui passent. Et c'est ce que j'appellerais, moi, des pseudo-ondes. Ces pseudo-ondes, c'est un peu la même chose que sur, vous voyez, les mouvements sur les enseignes lumineuses. Vous voyez, les lumières qui se décalent, qui s'allument et s'éteignent séparément. En fait, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de phénomène d'auto-organisation. L'organisation est préalablement injectée. Il n'y a pas de communication directe d'une ampoule à l'autre. C'est simplement un système informatique ou simplement une minuterie qui les allume alternativement. Donc, on peut avoir des ondes, mais qui ne résultent pas de système de réaction diffusion. Mais maintenant, d'autres systèmes peuvent... Alors, dans ce cas-là, si mon système était parfaitement homogène, même s'il y a des oscillations et des déphasages, la diffusion devrait au contraire estomper toutes ces inhomogénéités, et ça devrait continuer à osciller en phase, à condition que j'aurais pu continuer, dirons-nous, à alimenter ce système. Mais il est mort bien avant. Dans certaines réactions, par contre, ces ondes ne meurent pas. C'est le cas ici des ondes que l'on observe dans la réaction de Belousov-Zapotinsky. Alors la réaction de Belousov-Zapotinsky, c'est la réaction entre le bromate, l'acide malonique, et un catalyseur, ici, le catalyseur utilisé, c'est la ferroïne, qui a l'avantage d'être bleue lorsqu'elle est dans l'état oxydé et rouge lorsqu'elle est dans l'état réduit. Et lorsqu'on répand une solution, un mélange d'une telle solution en film mince, il se forme des ondes. Alors ceci, vous allez voir dans une vidéo, que ceci sont en fait des ondes propagatives. Alors, je ne vais pas décrire ici, vous allez le voir sur la vidéo. Ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle par un milieu excitable, parce que ça, ce sont des ondes qui se propagent dans un milieu excitable. Alors, un milieu excitable, supposons que nous avons un système qui est une concentration stationnaire, ici, que j'ai appelé XS, et si je fais une perturbation, c'est-à-dire j'augmente légèrement la concentration de cette espèce X, en dessous d'un certain seuil, sa concentration décroît, on dit qu'elle relaxe vers sa concentration initiale. Par contre, si j'augmente cette concentration au-dessus d'un seuil critique, alors le système chimique amplifie cette variation. Et on peut la amplifier de façon considérable. L'augmentation X va augmenter considérablement, aller saturer avant de relaxer vers son état initial. Donc, l'excitation, c'est un phénomène qui a, c'est une phénomène d'amplification avec un phénomène de seuil. Si je fais la même chose, maintenant spatialement, ça c'est la position, là c'était au cours du temps, ici maintenant c'est spatialement. Si je fais une petite perturbation qui dépasse justement ce seuil, la chimie va faire en sorte que maintenant la concentration ici va augmenter. Et si la concentration augmente, par diffusion, je vais propager en quelque sorte la forte concentration sur les côtés, sur les ailes. Et sur les ailes ici, chaque fois, je vais faire passer une petite partie, au fur et à mesure, une partie de la solution au-dessus du seuil. Dès qu'elle passe au-dessus du seuil, elle augmente. Et c'est ainsi que je peux avoir un front qui se déplace sans déformation et sans atténuation. Une façon caricaturale de voir les choses, on peut imaginer que c'est comme un feu de flamme. C'est un feu dans une prairie sèche. Vous avez de l'herbe qui est sèche, vous mettez le feu au centre, il n'y a pas de vent, vous avez un front circulaire qui se propage. Mais nous sommes dans un pays un peu étrange, disons genre Alice au pays des merveilles. Une fois que le feu s'est propagé, il reste de l'herbe brûlée. Mais les racines ne sont pas mortes. Les racines ne sont pas mortes et l'herbe repousse. Elle est d'abord verte, puis avec le temps, dirons-nous, on est sous le soleil, elle finit par sécher à nouveau, et elle redevient combustible. Et c'est à ce moment-là que, à nouveau, si on remet une allumette, va se propager un second front. C'est en fait ce qui se passe ici. C'est une analogie. Je dis, c'est toujours caricatural, mais je pense que c'est... Là, je vous ai dit que, de toute façon, que ces fronts, il fallait faire des perturbations pour les déclencher. Il se trouve qu'il y a certaines géométries, si je viens à casser le front circulaire de tout à l'heure, il va se former des spirales, et ces spirales n'ont pas besoin d'être réinitialisées à chaque fois, elles s'auto-entretiennent. Mais le mieux, c'est de voir ça sur la vidéo. Alors, je éteins ici, je suppose. Alors, dans un premier temps, vous allez voir en quelque sorte la réaction chimique oscillante, au cas où elle n'avait pas marché sur la paillasse. Vous allez revoir, je rajoute le dernier ingrédient dedans, vous allez voir quelques oscillations. Là, vous allez voir un peu du déphasage également. Ça, c'est parce qu'il y a des interfaces, voilà, l'agitation. C'est un agitateur qui, au fond, quelquefois, on pose la question, qu'est-ce qu'il y a au fond ? C'est simplement un petit barreau aimanté. Donc, voilà, on passe... Alors, les variations de concentration, pour donner là, sont à peu près de 3 ordres de grandeur, pour les variations en iodure, par exemple. Et la période, c'est de l'ordre, comme vous avez vu, de l'ordre de 10 secondes. Alors, on s'arrête... Vous avez vu, là, en système fermé, ça s'est arrêté, ils ont été démarré en même temps. Par contre, si j'alimente avec des pompes, c'est ce que vous disiez, le système peut continuer à osciller de façon parfaitement régulière. Là, c'est un réacteur ouvert simplissime. Voilà, maintenant, ici, ça c'est un mélange de la réaction de Belousov-Jabotinsky. J'ai fait une couche mince. Alors, initialement, nous sommes dans un état réduit, rouge. Alors, il y a toujours des petites poussières. Une petite poussière déclenche une onde. Alors, tous les petits grains que vous voyez sombres sont en fait des bulles d'oxyde de gaz. C'est du gaz carbonique. Alors là, on va vous passer ça en accéléré. Voilà. D'ailleurs, on peut voir que la plupart du temps, les ondes commencent à partir de justement ces bulles. Il faut des petites hétérogénéités. Il faut des petites hétérogénéités pour déclencher. Il faut le faire passer au-dessus du seuil. Ça n'apparaît pas spontanément. Alors, ce que vous voyez également, c'est que deux fronts qui se rencontrent s'annihilent, comme deux fronts de flamme. Deux fronts de flamme ne se traversent pas. puisqu'il n'y a plus rien à brûler derrière. Au fur et à mesure, vous allez voir, il y a des bulles qui sont formées et qui vont commencer à bouger, tout simplement parce que bon, les conditions expérimentales ne sont pas idéales. Voilà, on a cassé un bord, il y a des spirales qui se forment maintenant. Maintenant, on va les passer en accéléré. Alors maintenant, toutes les spirales... Ah. Un petit peu plus loin, c'était... Oui. Voilà. Donc, c'était en système fermé, et comme pour la réaction qui était ici, tant que c'est en système fermé, ceci ne peut pas continuer indéfiniment. Pour pouvoir entretenir, en quelque sorte, ces réactions, il faut donc les ouvrir. Autrement dit, il faut inventer des systèmes qui permettent de les alimenter. Alors, c'était un peu un challenge, d'une certaine façon. Parce qu'il faut, en quelque sorte, amener des réactifs en tout point de l'espace sans perturber le liquide réactionnel. Alors, ça paraît peut-être un peu contradictoire, parce que si on veut amener des réactifs, il faut injecter. Si on injecte, on risque de perturber le liquide environnant. Et une des astuces, c'est tout simplement... de travailler non pas dans une simple liquide, mais en fait... dans un gel. Alors un gel, c'est la même chose que votre gélatine alimentaire. C'est un réseau qui est essentiellement constitué ici d'eau, puisque je travaille en solution aqueuse. Ça permet d'éviter les mouvements convectifs. Par contre, ça n'empêche pas la diffusion des molécules. Et même... Si ces molécules interagissent ou non avec le réseau du polymérique, ici du gel, cela peut modifier la diffusion apparente de ces molécules. Et on peut mettre ça justement à profit pour avoir des systèmes qui ont des espèces qui ont des coefficients de diffusion apparents très différents les uns des autres. Alors, deux grandes géométries que vous allez voir, c'est la géométrie, dirons-nous, au bloc, où on alimente avec un certain mélange de réactifs A d'un côté et des réactifs complémentaires B de l'autre. Ils sont en contact avec les faces opposées, ces réactifs diffusent à l'intérieur, ils se rencontrent et la réaction a lieu à l'intérieur. Et l'observation se fait à travers cette paroi. Donc, il y a un nombre de choses que je vais vous montrer, c'est par observation à travers un réacteur de ce type. Mais le premier que je vais vous montrer, c'est un réacteur annulaire où les réactifs sont amenés sur les bords de l'anneau, sur la tranche, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce que l'on va regarder maintenant, c'est ce qui se passe entre ces deux bords. Est-ce qu'on peut voir... Alors, attendez, avant, oui, juste... On va voir quelque chose de ce genre. C'est-à-dire qu'on va voir maintenant... C'est toujours avec la réaction maintenant de Belousov-Zhabotinsky, que vous commencez à connaître... rouge, ferroïne réduite, bleu, ferroïne oxydée. On alimente les réactifs à l'intérieur, d'autres réactifs à l'extérieur, et on forme en quelque sorte ce que j'appellerais moi une gouttière d'excitabilité circulaire. On fait des perturbations et on crée une onde. On s'arrange pour que les ondes tournent dans le même sens. Je passerai les détails. Et maintenant, on peut voir la vidéo. Bon, ça c'est le système d'alimentation à travers la pompe et on va l'amener à ce, voilà, pompe péristaltique, voilà l'anneau, et voici. Alors, ça ne tourne pas à cette vitesse-là tout de même en réalité, ça s'est accéléré, je crois, 150 fois celle-ci. Voilà, en fait, c'est les mêmes types d'ondes d'excitation qu'on avait vues tout à l'heure, mais elles-ci sont entretenues. Maintenant, j'en mets par exemple, j'en mets trois. Je les avais créées, regroupées les unes à côté des autres. Et ce qu'on appelle les lois de dispersion font qu'elles ont tendance à se répartir de façon équidistante sur cet anneau. Alors ça, c'est des dynamiques simples, mais on peut avoir des dynamiques beaucoup plus compliquées. Vous voyez, la forme des ondes peut varier constamment. Un spécialiste dira que c'est un exemple de chaos spatio-temporel. je vous laisse regarder un peu ce carrousel. Alors, avec un autre réacteur, alors c'est comme le réacteur Bloch, mais on regarde en travers, bon, c'est la forme du disque ici, et avec le même type de réaction, alors on voit bien qu'il y a de l'injection, puisque là, on a fait un peu exprès de façon à ce que là, on voit que ça... Et on peut créer des spirales, mais ici, contrairement au cas précédent, tant que je continue à alimenter, la spirale va demeurer identique à elle-même. Et un certain nombre de gens, ensuite, analysent un peu... la dynamique de ces spirales et du cœur. Il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes, en particulier parce que ces spirales sont... les milieux excitables sont tout à fait analogues à ce qui se passe au niveau des muscles cardiaques. Les tissus cardiaques sont des tissus qui ont la propriété d'excitabilité. Or, un certain nombre d'anomalies cardiaques viennent de l'apparition de spirales d'excitabilité sur le cœur, en particulier la tachycardie ventriculaire. Et lorsqu'on dit qu'il y a arrêt brutal du cœur, en général, c'est parce qu'il y a multiplication de spirales sur le cœur et il n'y a plus de coordination d'ensemble, tout se met à vibrer ensemble. Bon, il n'y a pas que des structures du type onde. Il y a également des structures stationnaires. Jusqu'à présent également, toutes les structures que je vous ai montrées, en particulier dans les milieux excitables, demandaient à être démarrées en quelque sorte. Il fallait faire une perturbation pour l'initier. Mais dans les années 50, le mathématicien Alan Turing, qui est également connu comme un des pères de l'ordinateur et qu'il a bâti en même temps qu'il a en fait cherché à décoder le code allemand pendant la dernière guerre mondiale. D'ailleurs, l'ordinateur avait un principal objectif, c'était également le décodage des systèmes cryptés allemands. Il a également jeté les bases de l'intelligence artificielle et il s'est commis avec un papier qu'il a publié en 1952, dont le titre, en anglais, c'est « Chemical Basis of Morphogenesis », c'est-à-dire les bases chimiques de la morphogenèse. En quelque sorte, il fait l'hypothèse, il dit, je vous traduis ça de l'anglais, il dit que dans un système chimique, dans un système de systèmes chimiques qui réagissent et qui diffusent à travers un tissu, c'est une condition tout à fait appropriée pour pouvoir rendre compte des principaux phénomènes de la morphogenèse. Alors, c'était un peu fort, tout de même, pour d'affirmer cela. Et on peut dire que ce papier de Turing, en quelque sorte, était un des papiers fondateurs de la biologie théorique moderne. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui aient fait de la biologie théorique avant, mais je veux dire, ce papier, vraiment, l'aspect dont il traite, a vraiment déclenché au niveau des théoriciens un grand nombre d'études et la façon d'approcher les systèmes biologiques. Alors, comment fonctionnerait, dirons-nous, une instabilité chimique de type Turing? Autrement dit, comment un milieu réactionnel parfaitement homogène dans lequel il y a de la diffusion, va tout à coup devenir inhomogène. Je vous avais dit que la diffusion avait tendance à homogénéiser. Alors ça pourrait paraître contre-intuitif, bien sûr, mais là, il faut maintenant faire intervenir d'autres aspects. Alors, quels sont les ingrédients? D'abord, du point de vue des mécanismes, les mêmes mécanismes qui donnent naissance aux oscillations temporelles peuvent donner naissance aux structures stationnaires, du point de vue du mécanisme. Alors, vous allez voir que la petite différence maintenant, c'est au niveau des coefficients de diffusion. Supposons un système où on a un activateur et cet activateur produit son propre inhibiteur. C'est-à-dire que les deux, l'activateur et l'inhibiteur, varient en phase dans mon modèle ici. Si on suppose maintenant qu'il y a une petite augmentation, disons les fluctuations thermiques spontanées, localement, l'activateur augmente. comme c'est l'activateur, il aurait normalement tendance à continuer à augmenter. Mais si l'inhibiteur, lui, se développe avec, sur la même échelle de temps, et aussi sur la même échelle d'espace, autrement dit, s'il diffuse pareil, ben, il va tout simplement le ramener et le système va rester homogène. Par contre, si maintenant l'activateur a un coefficient de diffusion beaucoup plus petit que la diffusion de l'inhibiteur, ce qui va se passer, c'est que localement, l'activateur va augmenter. Il ne va pas, et par diffusion, il va chercher à s'étaler, mais il ne va pas s'étaler très loin, très vite. Par contre, l'inhibiteur, lui, il augmente aussi, mais il diffuse beaucoup plus. Donc, il s'étale beaucoup plus loin. En quelque sorte, sa concentration devient déficitaire au centre et excédentaire sur les ailes. Tandis ce qui permet de laisser le pic d'activateur augmenter jusqu'à ce que la vitesse de production de l'activateur soit compensée directement par la diffusion. Par contre, latéralement, maintenant, ce pic d'activateur par diffusion qui devrait pouvoir se propager ne peut pas se propager parce qu'il rentre dans une zone avec un excédent d'inhibiteur. Alors, c'est une explication encore une fois avec les mains. Ça vaut ce que vaut une explication, mais par contre, ça permet de bien comprendre les ingrédients qui sont nécessaires. Et ça veut dire également que pour qu'un deuxième pic puisse apparaître, il faut que ça apparaisse à une certaine distance du premier pic. En réalité, c'est une compétition entre les pics qui essaient de se développer un peu partout, de façon aléatoire, et ce qui émerge, c'est une structure avec une longueur d'onde bien définie. Alors, je passe rapidement sur les propriétés des structures de Turing. C'est ce qu'on appelle une brisure de symétrie spontanée, c'est-à-dire que le système est initialement homogène, on n'intervient pas, et cependant, la symétrie du système diminue. Autre caractéristique qui les distingue par rapport à d'autres types d'instabilité briseuse de symétrie, c'est que la longueur d'onde de ces structures ne dépend que des coefficients de diffusion et que des constantes cinétiques du système. Elles ne dépendent absolument pas de paramètres géométriques. Ce qui veut dire que dès que le système a tant soit peu une extension supérieure à la longueur d'onde, ces structures peuvent se développer dans les trois directions de l'espace. Alors, évidemment, du point de vue théorique, les gens ont essayé de déterminer quelles sont toutes les structures possibles. Si on regarde à une dimension, une ligne, c'est simple, c'est une alternance élevé, faible. Si je mets, par exemple, ici un seuillage, je vais avoir une structure qui va être blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. On peut également montrer que, théoriquement, que généralement, ce type de structure naît de façon continue, comme ceci. Alors, je pourrais même dire que cette amplitude, ceci, c'est l'amplitude en fonction d'un paramètre de contrôle, et qu'au-delà d'une valeur critique de ce valeur de contrôle, une amplitude croît, et cette amplitude croît en fait comme la racine carrée de la différence de la distance à la valeur critique. Dans des systèmes bidimensionnels, maintenant il faut savoir comment, dirons-nous, comment ça peut s'organiser tout en conservant la même longueur d'onde critique. Alors, il y a différentes possibilités. La plus simple, c'est l'extension dans la deuxième dimension de cette alternance. Ça donne une structure en bande. Et une autre structure, c'est une structure hexagonale. Alors, ce qu'il y a également, ce que l'on sait, c'est que au seuil de la transition, maintenant, ce qui se passe, c'est que la structure en bande, ici, elle est instable au départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'observer. Par contre, la structure hexagonale, elle est stable, mais elle apparaît, on dira, sous-critique, c'est-à-dire non pas de façon continue, mais discontinue. Ici, on voit très bien que mon système est homogène, j'ai une amplitude zéro, je passe ici au-delà de cette valeur critique, mon état homogène devient instable, donc j'ai une structure qui va se développer, et brutalement, je vais avoir une structure qui va se développer avec cette amplitude-là. À trois dimensions, on peut montrer qu'il n'existe que trois types de structures, c'est cubique centré, colonne hexagonale ou feuillet parallèle. Par ailleurs, expérimentalement, cela est très difficile à démontrer, à mettre en évidence, pour plusieurs raisons. La première vient que ces études ici sont faites dans des systèmes contraints de façon parfaitement uniforme dans tout le volume. Or, expérimentalement, on ne sait faire des systèmes qui sont alimentés à partir de surface, à partir de bord. Autrement dit, il faut un temps pour que les réactifs diffusent. Il n'y a donc pas alimentation homogène partout. Ça n'empêche pas d'avoir des structures. Mais par contre, l'analyse qui est faite là est un peu biaisée dans ce cas-là. Et d'autres structures peuvent apparaître. Alors, expérimentalement, voilà ce que l'on observe. Alors, ici, c'est avec une réaction qui est la réaction entre le chlorite, l'iodure et l'acide malonique. Et là aussi, on a introduit un indicateur coloré de l'iode, puisque c'est une réaction qui produit de l'iode. Et comme je vous ai schématisé ici, on voit à travers, en quelque sorte, les phases d'alimentation. Et selon les conditions d'alimentation, on peut avoir soit une structure hexagonale, soit une structure en bande. Ou on pourrait ne pas avoir de structure si on est hors du domaine où les structures peuvent se développer. Typiquement, les longueurs d'onde, ici, c'est... Pour ces structures ici, c'est 0,2 mm. Alors, dans ce que l'on connaît actuellement, pour les réactions qui donnent ce type de structure, elles sont extrêmement peu nombreuses. Je pourrais même dire qu'il n'y a pratiquement qu'une seule, celle-là, et quelques variantes. Les longueurs d'onde peuvent varier entre 0,1 mm et, dirons-nous, le millimètre au grand maximum. Mais cela, on peut assez bien le comprendre parce que, évidemment, pour qu'il y ait des structures, il faut une compétition entre les processus chimiques et les processus de diffusion. Or, les processus chimiques que l'on utilise ont des évolutions des échelles de temps qui sont... je n'avais pas vous passer de schéma réactionnel, à moins que vous criez après. Bon, ici, nous avons affaire à un réacteur un petit peu plus compliqué qui a pour but de vous montrer une séquence développée de différents types d'organisation spatiale. Alors, ce réacteur, c'est un réacteur dont l'épaisseur change, dirons-nous, de gauche à droite. Long de cet axe. On voit bien que pour une certaine valeur, le système est homogène. Alors, l'épaisseur ici, joue le rôle d'un paramètre, ce que nous on a un paramètre de transition, paramètre de bifurcation, c'est parce que c'est plus facile à faire une rampe d'épaisseur, par exemple, qu'une rampe de concentration. On aurait pu obtenir la même chose avec une rampe de concentration si on savait le faire. Donc, on passe bien homogène, première structure, hexagone. Ensuite, bande. Après, on retourne à hexagone. Parce que de toute façon, les structures de Turing n'ont qu'un domaine fini d'existence. Je rentre et je sors. Si je sors et je vais vers un système qui est à nouveau homogène, je vais à nouveau voir des hexagones. Parce qu'il ne connaît pas la direction dans laquelle on rentre ou on sort. Par contre, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne rentre pas, je ne vais pas vers un système qui est seulement homogène, mais je vais vers un système où il y a des ondes maintenant. Autrement dit, j'ai un système où j'ai des structures stationnaires et j'ai des ondes. Et de plus, dans cette région qui est floue, il y a combinaison, couplage, on dira, entre l'instabilité temporelle et l'instabilité spatiale chimique. Et ce que je veux voir, c'est que maintenant, à travers une vidéo, mais avant cela, je vais vous montrer d'autres, avant que l'on passe à la vidéo... Il y a autre type d'instabilité. Là, c'était une interaction entre l'oscillant et les structures de Turing. On peut avoir des interactions entre, par exemple, d'autres types d'instabilité spatiale, donc je vous passe les détails. que l'on appelle des structures de front, et on peut voir par exemple que des structures stationnaires peuvent croître par division, comme si c'était des divisions cellulaires. On passe ici par exemple, on peut voir la périphérie 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite, jusqu'à faire ensuite couvrir entièrement l'espace et avoir une structure hexagonale, ou alors faire des doigts. Je crois qu'il est temps de passer le reste de la vidéo. Alors Alan Turing, ça me permettait. Alors le type de réacteur que l'on voit, c'est le type de réacteur vu alimenté par les deux faces. Alors, on est d'abord dans l'état homogène et voir qu'au cours du temps, ça s'est accéléré, je crois, 300 fois. Voilà, on a une structure avec des hexagones avec un nombre de défauts. Maintenant, si je change encore le paramètre, je passe de structure en hexagone, je passe à des bandes. Et si je fais maintenant le saut inverse, ce qui devait se produire ici, je retrouve une structure hexagonale. Et ceci, c'est son... Alors là, c'est le cas où j'ai interaction entre l'instabilité oscillante et l'instabilité spatiale de Turing. Où on voit qu'il n'y a pas une simple superposition des deux phénomènes, mais c'est vraiment, ça donne naissance à de nouveaux comportements. Ici, on voit où finalement il y a des zones où la structure de Turing disparaît. C'est un peu flou, ce n'est pas aussi bon que dirons-nous sur l'écran, mais il y a des zones où il n'y a plus de structure, mais ces zones, en quelque sorte, les structures envahissent, pendant que dans certaines autres zones, les structures disparaissent pour donner des zones claires. Voilà. Alors, les spécialistes diront que c'est en fait de l'intermittence spatio-temporelle. Voilà un cas de division. Et tout ça, c'est fait avec de la chimie relativement simple. Du point de vue des ingrédients, c'est simple. Là, celle-là est assez spectaculaire, je l'aime bien celui-là. On voit également que les ondes ne collisionnent pas. Tout simplement parce que l'inhibiteur diffuse devant et deux fronts d'inhibition font que finalement la zone claire qui est la zone d'activation, elle ne peut pas se propager. Et ça donne une structure stationnaire qui avec le temps, avec de nombreux défauts, les défauts vont partiellement s'organiser. Oui. Bon, maintenant, la partie plus spéculative, dirons-nous, la partie qui est sujette à discussion. Alors, les structures de Turing et les analogies biologiques. En fait, on revient à l'idée initiale de Turing, qui a dit finalement, est-ce que certains aspects de la morphogénèse peuvent être, est-ce qu'on peut rendre compte de certains aspects de la morphogénèse par des instabilités du type réaction-diffusion, telles qu'il les a décrites, que l'on appelle maintenant une structure de Turing, ou une instabilité de Turing. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont engagés là-dedans, et un des auteurs les plus populaires, je ne sais pas si peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, c'est un autre britannique d'ailleurs, mathématicien aussi, monsieur James Murray, qui a publié alors un livre qui est Mathematical Biology, mais aussi un certain nombre d'articles, comment le léopard a-t-il eu ses tâches ? Comment sont nées les tâches du léopard ? Alors, avant de vous présenter des structures en bande qui vous paraîtraient quelque chose de relativement simple, nous, on a voulu fabriquer au laboratoire, voir si on savait faire quelque chose comme les tâches du léopard. Les tâches du léopard, la fourrure du léopard, n'est pas quelque chose de très simple, finalement. Si on regarde, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Voici. On voit à travers, c'est pas la peine que je cache quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont des tâches un petit peu désordonnées, avec des creux. Et finalement, dans les réactions chimiques, on peut obtenir les mêmes genres de choses. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que parce qu'on obtient des phénomènes qui ont des analogies les unes avec ce qui se passe dans les systèmes, dans le sol pelage des mammifères, qu'on a compris comment s'organisent les tâches des léopards. Mais cela montre que des processus de ce type sont suffisants. Et finalement, on n'a pas besoin d'avoir des systèmes très compliqués. L'enseignement, c'est que probablement, il y a d'autres ingrédients, mais que il y a aussi, évidemment, les ingrédients tels que la diffusion peuvent être suffisants. Ce n'est pas la peine de chercher, dirons-nous, des molécules un peu particulières à chaque fois, aussi, à chaque fois que le motif change sur un mammifère, ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle molécule. C'est tout simplement parce qu'il y a un léger changement, par exemple, dans les conditions dans lesquelles ils sont apparus. Ou tout simplement parce qu'ils n'apparaissent pas au même moment. Par exemple, James Murray, il s'est amusé, entre guillemets, à comparer, par exemple, on connaît deux grands types de zèbres. Des zèbres à large bande et des zèbres à fine bande. Et finalement, si on regarde du point de vue de ce qui est des aspects de Turing, je dis, les structures de Turing apparaissent avec une longueur d'onde bien définie. Et on s'est aperçu que des études ont été faites que les zèbres à large bande, en fait, les bandes apparaissent beaucoup plus tôt dans les embryons de ces zèbres-là que dans les embryons des zèbres à fine bande. Autrement dit, dans le cas des zèbres à large bande, l'embryon est tout petit, il y a beaucoup moins de possibilités de mettre des bandes blancs et noirs le long de l'épine dorsale, dirons-nous, de cet embryon, que sur l'embryon de ces zèbres à fines bandes, ou alors je crois qu'ici, dans un cas, c'est au 13e jour, je crois, et l'autre au 21e jour, mais je peux faire une erreur d'une semaine là-dessus. Voilà, c'est de voir le genre d'idées, c'est pour vous montrer le genre d'idées qui sont soutenues au niveau de la compréhension du développement des, dirons-nous ici, pour le pelage des mammifères. Dans le même cadre, alors ça c'est un Allemand qui, lui, essaie de comprendre comment se développent les motifs sur les coquillages. Également, alors lui prend des systèmes modèles qui sont des caricatures de systèmes biologiques avec peu de variables, 3, rarement 4. Et on peut rendre compte de choses aussi simples, d'un côté, par exemple, que le développement de structures ici, le long sur un cône, sur une patelle. Ça serait typiquement une structure de type Turing, stationnaire. Au fur et à mesure que le périmètre augmente, dirons-nous, on peut mettre des bandes supplémentaires, toujours à égale distance. Par contre, ceci relève d'une dynamique déjà beaucoup plus compliquée, où il y a à la fois des parties ondes et des interactions. Comme je dirais, ça relève de ce qu'on appelle de l'intermittence. Donc je crois que pour les analogies biologiques, je crois qu'on va s'arrêter là, et je pense qu'on va passer... Finalement, ce que j'ai voulu faire passer, c'est dire que les réactions chimiques peuvent développer des structures à la fois dans le temps et dans l'espace. La réaction chimique n'est pas seulement un mécanisme qui sert à transformer des espèces A plus B en des espèces XZ, ni à nous chauffer, mais la réaction chimique peut réellement créer quelque chose qui est tout à fait original, qui évidemment est lié à sa dynamique elle-même, puisque ce sont des systèmes dynamiques, qui peut donner donc des informations de type horloge chimique, horloge biochimique ou des auto-organisations. Alors, du point de vue de savoir si maintenant les structures de réaction-diffusion sont réellement mises en œuvre dans la morphogénèse des êtres vivants, on n'en est pas encore là. Les êtres vivants sont des choses très compliqué dans ce sens que non seulement il y a de la réaction, il y a de la diffusion, il faut tenir compte probablement de l'élasticité, des tensions superficielles, il y a également du champ électrique, il y a également des pressions capillaires et autres. D'autre part, pour savoir vraiment démontrer cela, il faut arriver à identifier vraiment un activateur avec son couple antagoniste, l'inhibiteur. Parce que trouver une espèce qui va induire, par exemple, l'apparition d'un membre, ça, les biologistes savent faire. Et par contre, ça ne veut pas dire parce qu'on a trouvé un réactif qui induit l'apparition d'un membre, qui active l'apparition d'un membre, qu'on a compris un système de type réaction-diffusion avec instabilité de type Turing. Il faut trouver vraiment le système compensateur antagoniste pour vraiment identifier qu'on a affaire à quelque chose qui relève d'une instabilité de réaction-diffusion. Sans compter que, alors du point de vue théorique, si on oublie maintenant que l'on a affaire à des ingrédients chimiques ou à un champ électrique ou à un champ électromagnétique, il y a un certain nombre d'instabilités de systèmes qui, dès qu'on a des processus non linéaires, vont donner le même type de sélection de motifs, le même type de comportement. Il y a en quelque sorte un aspect universel, au moins en première approximation. Alors, les systèmes biologiques font partie du monde physique comme toute autre chose. Donc, même s'il y a d'autres ingrédients, ils vont présenter des comportements qui vont être très analogues à ce que l'on voit, par exemple, en réaction-diffusion. Mais la réaction-diffusion reste tout de même un des aspects privilégiés du point de vue de la morphogénèse. Je vous remercie.
Bonsoir. D'abord, c'était très très intéressant et moi je me pose simplement deux questions et une remarque. D'abord, je veux savoir quelle est la différence entre un système fermé et un système ouvert. Deuxièmement, je voulais savoir d'où vient la possibilité qu'on a vue de constater qu'il y a un mouvement de cyclone lorsque vous avez fait l'expérience. Et troisièmement, ma petite remarque, c'est le Big Bang, est-ce qu'il n'a pas résulté du nombre d'excitations dans un milieu excitable? Merci.
Il faudrait poser la question à Prigogine. Premièrement, quelle est la différence entre système fermé et système ouvert? Un système fermé, c'est un système qui n'échange ni matière ni énergie avec son milieu extérieur. Par exemple, ici, bon, à part que je n'ai pas bouché parce qu'il y a de l'oxygène et que je ne tienne pas à ce que j'ai un problème d'explosion, donc il y a de l'oxygène qui est sorti, donc j'ai eu échangé de l'oxygène avec le milieu extérieur. Et par contre, pour tous les autres réactifs, je n'ai absolument rien échangé. Tout est resté là-dedans. Ça, c'est le système fermé. Par contre, le système ouvert, il y a deux façons je peux l'ouvrir. Alors, du point de vue du chimiste, j'injecte des réactifs en continu, donc je l'alimente. J'alimente en permanence. Nous sommes des systèmes ouverts. Si vous arrêtez de vous alimenter, vous passez à l'équilibre. Et l'équilibre, en général, c'est horizontal. C'est... Nous sommes des systèmes ouverts. Bon, supposons un front de ce type-là, qui est continu, il n'y a pas de bord, en fait, il est continu aussi loin que l'on veut. L'onde se propage perpendiculairement au front, toujours. Si maintenant je brise, alors je vais le briser tant qu'à faire, il est ici, il est brisé là, maintenant, le front là. Ce qui va se passer, c'est que ici, il va se passer perpendiculairement, mais sur le bord, ici, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un peu de diffusion dans cette direction, puis il va un petit peu moins par ici, là il ne peut pas parce que on rentre dans la partie qui est inhibée. Autrement dit, si je prends le déplacement de ce front à un instant plus loin, je vais avoir ça, et je vois une petite courbure. Mais je reprends, mon front il part comme ça, mais ici aussi maintenant, là une petite, et je continue. Donc, de proche en proche, l'extrémité va s'incurver. Et va s'incurver, alors, vous pouvez me dire maintenant, si elle s'incurve, qu'est-ce qui se passe au centre ? Non, vous ne vous posez pas la question. Bon, je vais tout de même vous donner la réponse. Qu'est-ce qui se passe au centre ? En fait, ce qui se passe au centre, c'est qu'il existe, en fait, un petit noyau qui reste inchangé, sur lequel... cette spirale se développe. Alors, en fait, je ne dois pas être tout à fait à la bonne taille, parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, ici, une spirale, en quelque sorte, a une certaine longueur d'onde, et c'est la distance minimale à laquelle deux ondes peuvent se suivre. Autrement dit, dans l'analogie avec la propagation du feu, c'est deux fronts de flamme. Il faut attendre pour que le front de flamme derrière, que l'herbe qui est poussée et qui soit déjà suffisamment sèche pour pouvoir avancer. Elle ne peut pas dépasser ça. Donc, ça détermine cette longueur d'onde. Ça détermine cette longueur d'onde. Autrement dit, ici, ce cœur est en quelque sorte comment ce front se voit lui-même. Et ce cœur est en quelque sorte le périmètre de ce cœur est égal à la longueur d'onde. Le long ici, en quelque sorte, il faut qu'il voyage. En quelque sorte, ici, il ne faut pas oublier qu'il tourne. Donc, ici, j'ai les parties d'inhibition. Alors, c'est inhibition, inhibition, inhibition. Ça va, tout voyage par ici. Tout voyage. Donc, il faut récupérer pour que celui-ci puisse avancer, ici, dans cette direction. Il faut que ça soit suffisamment, le système est suffisamment récupéré. Et c'est la même chose, pour que lui puisse avancer ici, il faut qu'il ait récupéré sur celle-là. Donc, il faut qu'il ait récupéré sur lui-même.
Monsieur là-haut. Allez-y. Oh.
Oui, à propos de la cellule vivante. La cellule vivante est un système ouvert et un nombre considérable de réactions ont lieu, et plus ou moins d'ailleurs compartimenté. Le problème de ces auto-structurations, auto-organisations, est intéressant, un peu en opposition peut-être avec une autre conception de la vie qui repose sur un déterminisme plus purement génétique. Alors, on a l'impression aujourd'hui qu'on peut avoir deux conceptions, en fait, de la vie cellulaire. Une conception d'une relative autonomie, ce que vous développez, avec des phénomènes complexes d'auto-organisation, mais purement réactionnels, et un autre déterminisme qui relève de l'expression génétique. Est-ce que cette vision un peu double de la vie n'a pas des conséquences très importantes, même au niveau de peut-être la conception même de la médecine ou de notre relation avec l'environnement, le rôle de la relation avec l'environnement, etc. Autrement dit, la conception classique génétique, c'est que tout est sous le déterminisme et sous la commande génétique interne. Votre conception plus purement chimique relèverait plutôt d'une autostructuration qui serait fortement dépendante de paramètres extérieurs, d'environnement, etc., et d'une autonomie vis-à-vis de l'expression génétique.
Bon,
ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau d'un prolongement en ce qui concerne peut-être même la médecine, disons.
Ben, je pense que maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de biologistes qui diraient que toute l'information du développement corporel se trouve dans le code génétique, parce que l'on sait que le code génétique ne suffit pas par, je crois, un facteur 10 puissance 6 peut-être, 1 million. Il n'y a pas assez d'informations pour donner tous les détails, jusque, dirons-nous, mes empreintes digitales, la position du poil sur la tête, les pigmentations... Il n'y a pas assez d'informations. Donc, il faut d'autres systèmes, d'autres mécanismes que j'appellerais génériques par rapport à l'information génétique qui prennent les relais. Et ce sont ces mécanismes... Bon, la réaction diffusion en est un. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. On sait très bien que des jumeaux, des vrais jumeaux, ne sont pas identiques. Si l'information génétique était la seule mise en œuvre, on devrait avoir des jumeaux parfaitement identiques. D'ailleurs, tenez, je vous ai parlé d'ailleurs de taches du léopard et sur les zèbres. En général, on ne clone pas tellement les zèbres et les léopards. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt du point de vue industriel mais, et commercial. Par contre, on clone des veaux. Et là, ce sont des vrais jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont été pris à partir d'un œuf initial, séparés. Et on voit, que, par exemple, que les taches ne sont pas réparties de façon identique. Cependant, la proportion de blanc et de noir est à peu près pas trop dispersée. Dirons-nous qu'il n'y en a pas un qui est entièrement noir avec des petites taches blanches. Ils sont tous avec dominante blanche et avoir quelques petites taches noires. Alors ça, c'est probablement l'information génétique va déterminer à peu près les proportions, combien on va avoir de cellules, des mélanocytes qui vont se répartir. Ça, c'est l'infiodique. Par contre, leur position est tout à fait aléatoire. Bon, il y a quelques points d'accrochage, par exemple les yeux, ça, on sait, il y a des points d'accrochage qui se font, les yeux. Pardon.
Oui, j'ai l'impression, en vous entendant, un peu comme un de vos collègues qui avait parlé de mécanique quantique, qu'un peu de science nécessite du formalisme mathématique et beaucoup de science permet de revenir au raisonnement avec les mains. Bon, ceci étant, moi, je me demande si vous accepteriez l'idée que la notion d'auto-organisation soit répercutée sur un autre ensemble d'espèces, à savoir les groupes humains, disons les entreprises. Je suis frappé de voir qu'il y a des formes d'organisation qui ont été trouvées par d'autres méthodes, en nombre limité. Je serais curieux de connaître votre réflexion.
Bah, écoutez, c'est un aspect dont je ne suis pas, dirons-nous, mais je sais qu'il y a effectivement autant au niveau, dirons-nous, des études des populations d'animaux, autant que des groupes humains, et aussi des industries. Il y a même des gens qui, à l'intérieur même de l'organisation d'une industrie, par exemple une industrie automobile, il y a des gens qui ont commencé à regarder s'il n'y avait pas l'équivalent d'auto-organisation du type, alors, réaction-diffusion. La diffusion est un transport. C'est un transport d'informations. Ce transport d'informations peut être fait de différentes façons. Donc, je sais qu'il y a des gens qui s'en intéressent. Moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas, j'avoue, ne pas avoir beaucoup lu dans cette direction.
Bien, ben nous allons en rester là parce qu'il est tard, mais merci beaucoup.
Alors,